chronique de Canal Académie.
On retrouve Jacques-Louis Binet, correspondant de l'Académie des Beaux-Arts.
Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du musée d'art moderne de la ville de Paris. C'est la première fois que je parle d'un musée, mais ce musée le mérite parce qu'il reste paradoxalement, alors qu'il a été créé depuis longtemps, un peu méconnu. Il doit sa réputation à deux grands conservateurs. D'abord Suzanne Paget, qui l'a longtemps dirigée avec très peu de moyens, en faisant des expositions exceptionnelles. C'est elle qui a montré à Paris pratiquement le meilleur de l'école allemande. C'est elle qui avait fait une superbe exposition sur Giacometti. Et là encore, ça n'a pas passé à l'oubli, parce que toutes ces expositions ont eu beaucoup de succès. Mais maintenant qu'elle n'est plus là, eh bien on l'oublie un peu. Son successeur a aussi beaucoup de talent. Il s'appelle Fabrice Ergotte. Il a été formé à Beaubourg, puis il a pris la direction du musée d'art moderne de la ville de Strasbourg, où il a parfaitement réussi. Et ici, eh bien ici, il a redonné un souffle nouveau à ce musée. D'abord, ce musée contient des chefs-d'œuvre que vous ne devez pas ignorer. Il y a la fée électricité Dufy. Immense panneau, peut-être un des plus grands de l'art contemporain qu'on a un peu oublié. Il y a un des plus beaux nus de l'art moderne, c'est-à-dire le nu de Bonnard avec sa femme dans la baignoire. Il y a les danses de Matisse, pas pour le moment, puisque l'une, je crois, est encore à Beaubourg pour l'exposition sur le sujet, et il y a d'admirables fautriers. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'ensemble des expositions, ou plutôt, je n'en parlerai qu'une, mais je voudrais énumérer toutes celles qui ont lieu en même temps, juste illustrant bien l'activité de ce musée. Il y a une exposition actuelle sur l'art mexicain 2000-2012, qui est centré surtout sur la vidéo, sur les photographies, sur les problèmes sociaux violents qui peuvent se poser au Mexique. Il y a la fin de l'exposition de Bernard Buffet qui se termine le 17 juin. Je ne veux pas en parler puisque Lydia Arambourg aura elle-même son exposé sur Bernard Buffet, mais je voudrais remercier le conservateur car c'est le seul conservateur français qui a eu le courage de montrer Bernard Buffet, qui était un peu haï dans le milieu pictural, je crois parce qu'il avait eu beaucoup de succès, qu'il avait eu un grand succès très jeune et qu'il vendait donc assez bien. Troisième exposition importante, celle d'Étienne Martin, avec le don de L'Oréal, qui doit tout à Étienne Martin, puisqu'ils l'ont beaucoup acheté, mais ils en ont aussi beaucoup profité. Alors il y a quelques sculptures exceptionnelles, comme les Nuits Nina, comme une demeure, la demeure 17, celle qui veille, comme un amandier, et quelques autres sculptures assez belles, mais cette exposition, cet accrochage est fait depuis un certain temps, et actuellement c'est comme s'il était un peu rétréci, c'est comme s'il était resserré. On voit apparaître un Rekicho qui n'a pas beaucoup de relations avec Étienne Martin, on voit apparaître Villéglet, Heinz, César, que j'aime beaucoup, et Dubuffet. Mais là encore, ce n'est pas tout à fait le monde d'Étienne Martin. Autre exposition, celle de Quirico. Bien sûr, le chef-d'œuvre de Quirico, qui est le portrait prémonitoire de Guillaume Apollinaire, est au musée d'art moderne de la ville de Paris. Mais l'exposition qui est là est très intéressante, puisqu'elle montre le Quirico de la fin, dont on ne savait pas très bien ce qu'il pensait de la première période, pourquoi il les reprenait. Donc, des choses importantes qui reprennent les thèmes classiques. Haute exposition, vous voyez qu'on ne s'arrête pas au musée d'art moderne de la ville, celle de Eco Nugaro, et autre exposition aussi, celle de Robert Crumb et de Laudner Krohn. Je n'aime pas beaucoup ce style de bande dessinée, ou plutôt, je ne parle pas que ce que j'aime pas. Et la bande dessinée, c'est pas ma tasse de café. Mais c'est un énorme succès aux États-Unis et il est normal que ça soit montré au public. Et puis, un peintre américain qui n'avait jamais encore été exposé à Paris, Christopher Wool, qui est un peu le coup de cœur du conservateur, de Fabrice Ergotte, parce qu'il l'a déjà montré. Il l'a déjà montré à Strasbourg, quand il était conservateur de Strasbourg, en 2006. Christopher Wool est né en 1955 à Chicago et il a eu un énorme succès dans les années 90 quand il a été montré à New York. Un succès dont les habitants de Strasbourg ont pu profiter avec des mots tronqués, modifiés, totalement transformés, et la critique des inrocuptibles. Elle a vu cette exposition, ça doit être la seule critique parisienne qui l'ait vue, elle l'avait beaucoup aimée, et cette fois-ci elle est un peu déçue, comme la critique parisienne, car c'est un peintre qui, au moment où la photo prenait toute son extension, très souvent au prix de la peinture, est resté peintre. Et actuellement, ce qu'il montre, c'est de la peinture abstraite, avec deux thèmes. D'abord, un tracé au spray qui est répété, qui est modifié, qui est transformé, et puis, soit isolé, soit associé à ces lignes tracées au spray, des grands coups de brosse, des peintures sérigraphiques, et comme l'exposition, les tableaux n'ont pas de titre, comme il n'y a pas d'ordre chronologique, on est un peu perdu au milieu de cette abstraction qui encore fait appel à deux moyens, un tracé qu'on voit se répéter, et puis, peut-être plus attachant, des coups de brosse qui rappellent une certaine bonne peinture abstraite. Mais la critique est un peu déçue. La critique Judicaël Lavrador, qui est la critique des inrocuptibles, qui l'aimait beaucoup, l'exposition de Strasbourg, trouve que quand même, l'exposition est un peu, dit-elle, mécanique. Et Valérie Duponchel, dans Le Figaro, reste suspendue à ce qu'elle appelle le mystère de l'abstraction. C'est quand même une exposition qu'il faut voir parce qu'elle montre que même aux États-Unis, sans derrière tout un arsenal d'argent et d'économie, continue à se créer une peinture difficile, abstraite, difficile à comprendre, mais une vraie bonne peinture. Voilà les peintres dont je ne parlerai pas. Et je me réserverai de parler uniquement de la peinture de Claude Garrache, parce que c'est un très bon peintre, qui a droit à une petite exposition, mais une exposition tout à fait justifiée. Il est né en 1929, il fut totalement lancé par la Galerie Mag, et il a eu à ce moment-là un grand succès, que ce soit à la Galerie, ou que ce soit au contraire à la Fondation Mag. Donc, énorme succès autrefois, avec un très bon article d'Yves Bonnefoy, qui est ancien, qui date de 77, où il montrait tout le talent et toute l'originalité de Claude Garrache. Et puis, depuis que Aimé Mag est mort, on en parle moins, il expose moins, mais il continue à travailler. Et je crois que cette exposition est plus que justifiée, parce qu'en réalité, il faut bien le dire, il a été un peu oublié. Sa formation est paradoxale, puisque c'est d'abord été celle d'un sculpteur. Il a sculpté, il a appris toutes les techniques de sculpture et tout ça, pas très satisfait, comme il le disait, il cherchait sa propre forme. Avec beaucoup de curiosité, avec beaucoup d'attention sur ce que faisaient les autres, mais en réalité, il se cherchait. Il se cherchait d'abord où ? Eh bien, il est arrivé à rapidement trouver que son sujet, il n'y en avait qu'un. C'était le nu, et sa technique, il n'y en avait qu'une, c'était la peinture. Et le premier mot qui vient lorsqu'on voit un tableau de Claude Garrache, c'est le mot présence. Ces nus ont une exceptionnelle présence. Et l'exposition est assez bien faite parce que dans une petite salle, elle a été faite à l'occasion de l'acquisition par le musée d'une toile, et le conservateur a demandé à Claude Garrache de s'associer ou d'associer ses acheteurs, les collections privées à cette exposition. Donc, une exposition qui, autour de la toile qui vient d'être achetée par le Musée d'Art Moderne, groupe 13 toiles qui commencent en 1959 pour se terminer maintenant. Alors, le sujet, il n'y en a qu'un, c'est le nu, la femme. Et Claude Garrache ajoute, écrit, et il le fait écrire aussi par Bonnefoy, « Je n'ai pas besoin d'aller dans le paysage, je n'ai pas besoin de sortir de l'atelier, j'ai toute la nature sous mes yeux quand je vois un nu. » Voyez donc un seul sujet qui traite depuis des années, tout le reste, il ne s'en est pas occupé. Alors pourquoi le nu ? Eh bien, il explique. Parce que pour lui, ce nu est fondamental, c'est à partir de ce nu que toute son émotion peut naître, et il décrit longuement ce système sensoriel en éveil, tous ces capteurs qui se perçoivent de tout ce qui se passe dans un corps, ce fonctionnement qui respire, ce fonctionnement qui grouille, et toutes les activités intenses et secrètes à partir de ce fonctionnement. Donc, on va assister dans l'exposition à un dialogue entre lui, peintre, et un nu. Ce dialogue est très réglé. Dans son atelier, il y est toujours seul. Il dure des séances et des séances de pause. Et ce dialogue s'exprime par trois moyens. Premièrement, la couleur. Et l'exposition s'appelle « Dans la couleur » de Claude Garrache. Deuxièmement, le dessin. Et peut-être encore, mais bien sûr associé à la couleur, au dessin, ce qu'il y a de plus original, c'est une nouvelle forme, ou plus exactement, un nouvel espace. La couleur. La couleur, c'est le rouge. Et il décrit longuement les rouges qu'il utilise, des rouges qui ont tous des cadmiums, le vermillon, le rouge, le pourpre, le pourpre-vermillon, qui mélangent. Et il leur associe, une fois qu'il a posé sa couleur, le glacis, qui est rendu possible par la peinture à l'huile et qui fait rentrer la couleur au fond de la toile. Donc, par uniquement ces rouges et par ce glacis, il arrive à un rouge unique qui, pour lui, n'existe que pour montrer le corps et le corps nu, c'est-à-dire une peau. Et il insiste beaucoup sur cette peau qu'il considère, et on retrouve sa tradition de sculpteur, comme de l'argile, qui modèle avec des glacis et des transparents, comme le sculpteur. Donc, autrement dit, cette couleur, il modèle dans la couleur, comme le sculpteur modèle dans la surface. On le voit très bien, par exemple, il faut s'approcher des tableaux, car lui, le modèle est immobile. Longue séance de pause. Et lui, tourne autour du modèle. Il s'agite en permanence. Il va, il vient. Il repart, il revient. Et j'ai devant les yeux la plus ancienne des toiles qui monte, qui s'appelle « Face douce », où il s'agit presque d'un plan. C'est un corps de femme, mais coupé, sans la tête, avec uniquement le tronc, le sexe, et c'est tout. Et presque pas de bord. Presque tout est rouge, un peu teinté de blanc sur les bords, un peu teinté de blanc à l'intérieur, avec, c'est très intéressant, une lumière interne. Autrement dit, la lumière ne vient pas de l'extérieur. La lumière éclaire la partie inférieure du sein gauche, la partie supérieure du sein droit, la clavicule droite, un petit bout de la clavicule gauche. Autrement dit, c'est comme s'il mettait en valeur l'intérieur du corps ne peignant que la peau. Vous voyez, ça c'est un problème très très important. Il est obsédé par ce corps, ça dure des semaines, et puis un jour, il finit par s'arrêter. Il essaye de trouver un sens à ce corps et ce sens qui s'obtient à partir d'un très long dialogue, ici presque essentiellement avec la couleur. En réalité, si la couleur s'est imposée, elle s'est toujours associée au dessin. Et pour lui, il n'y a pas de frontière, c'est son deuxième moyen, c'est le dessin. Il n'y a plus de frontière entre le dessin et la peinture. Il dit, il écrit, je dessine en peignant, je dessine avec la couleur, je dessine avec des flaques ou des taches, tout cela est du dessin et c'est le dessin qui donne une structure à ma toile. Quand je dois modifier ma toile, je commence par dessiner, puis je repeins. Je pense dessin et je fais peinture. Ça, c'est le secret de l'œuvre et ça donne à ses nus un ordre. Elle pose toujours, pas de mouvement, elles sont dans une position très particulière, et lui est obsédé par cette pose, et il écrit l'importance de la pesanteur. C'est un de ceux qui, devant un corps, redevient sculpteur et pense au poids de ce corps, avec cette puissance d'attraction, cet élément fondamental de la pesanteur. Il écrit « Toute la nature, toute la vie qui est là, eh bien, elle repose sur la pesanteur qu'on montre à peine ». Et très souvent, ses interlocuteurs demandent « Sur quoi posent vos corps ?» Il dit « Pose sur le sol ». Ce n'est pas toujours vrai. Et dans le premier tableau dont je vous parlais, qui était les faces douces, c'est un corps qui est en face. C'est un mur, comme beaucoup l'ont pratiqué dans l'art contemporain. Par contre, très rapidement, il va y ajouter non pas un mouvement, mais une posture, et les titres des tableaux vont changer. Par exemple, le tableau de 62 montre dévoilé et uniquement un adjectif, en montrant la partie supérieure du corps, les seins, et la partie inférieure, ce n'est que du rouge. Mais là encore, le rouge domine, mais ce rouge est dessiné. Ce rouge est limité, ce rouge est structuré par un dessin qui limite et qui même en dessine le contour et l'intérieur. Donc, le dessin est constamment présent, mais sous-jacent. Il est comme sous une couleur. Et ces personnages s'appellent dos. Il va peindre beaucoup de dos. Ces personnages sont debout, ils sont assis, ils sont accroupis. Et le dernier tableau qui est montré est le tableau couché. Alors tout ça, ça transforme l'environnement. Environnement est un mauvais mot. En réalité, environnement est un mot écologiste. Il faut parler d'espace. Et c'est cet espace qui fait l'originalité aussi de Claude Garrache. Regardez ces tableaux. C'est très souvent l'opposition du blanc et du rouge. Mais c'est surtout l'opposition de la figure et du fond. Et toute cette dialectique change d'une toile à l'autre. Par exemple, ce qu'il y a de plus intéressant, c'est le tableau qui a été acheté par le Louvre, où justement les personnages sont couchés. Mais dans tous les autres, l'espace est différent. Ils sont de temps en temps assis, mais on ne voit pas sur quoi ils sont assis. Il faut le deviner. C'est comme le fifre de Manet. Le fifre de Manet, il repose sur rien. Eh bien, très souvent, dans les toiles de Claude Garrache, on ne voit pas l'espace. Et cet environnement, cet espace, est parfois blanc, parfois aussi il est bleu, parfois il devient totalement rouge, c'est-à-dire que c'est à l'intérieur même de la toile qu'on aperçoit ce nouvel espace. Et en particulier, la couleur peut changer. Il y a un vert autour d'un tableau qui s'appelle la Gartempe, puis un fond bleu autour d'une toile qui s'appelle accroupie, I-E et bleu. Autrement dit, en même temps que la couleur, en même temps que le dessin, il a créé un nouvel espace. Et c'est cette notion sur laquelle je voudrais terminer. Claude Garrouste, c'est un nouvel espace. Et vous avez vu que dans cette exposition, nous n'avons finalement parlé que d'un peintre. Eh bien, je crois que c'est l'idée que nous devons répéter dans ces émissions. Un tableau, un peintre, une originalité. Et chez Claude Garrouste, l'originalité, c'est un nouvel espace qui est dû à la couleur, au dessin et à l'environnement.